Indice S&P 500, marché actions US. Est-il temps cette fois-ci de sécuriser sérieusement ses gains, de commencer à sécuriser sérieusement ses gains de moyen long terme? Cette semaine, décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, l'impossible statu quo, alors peut-être pas pour cette semaine, mais le maintien d'un statu quo, ce vain espoir, cet espoir sourd de la haute finance. Chers amis, dans cette nouvelle édition du Top Gun, vous allez assister à...
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Alors que la part du cash chez les gérants, j'ai à ma disposition la toute dernière analyse BofA Fund Manager Survey. Cette analyse mensuelle institutionnelle, la part du cash chez les gérants est tombée à 3,6% des portefeuilles. C'est quasiment le plus bas historique. Sous 4%, c'est une alerte. Il n'y a plus de cash à allouer sur les autres classes d'actifs. Ce n'est pas la garantie, ce n'est pas le signal d'un top majeur maintenant, mais c'est une alerte sur la situation cyclique du marché action. Et j'ai plein d'autres graphiques intéressants à vous montrer. Donc première partie, je vous montre les 6 graphiques les plus percutants en termes de positionnement institutionnel. Les graphiques à jour concernant la tendance de fond du marché action et justement le positionnement institutionnel. Vous allez voir, c'est passionnant, ma sélection des 6 meilleurs graphiques. Deuxième partie, Réserve fédérale du 29 juillet, donc ce mercredi 29 juillet. Alors, statu quo peut-être pour cette semaine, probablement, mais pour la rentrée, c'est impossible, statu quo, et pas forcément. En tout cas, un point complet sur la Fed et les anticipations. Et cette semaine, vous avez plein de choses, je vous ai dit. Vous avez la fête du 29 juillet, vous avez jeudi 30 juillet, l'inflation US-PCE, le véritable reality check. Rappelez-vous, je vous ai expliqué la semaine dernière que l'inflation CPI, que les mesures d'inflation sous-jacentes avaient même rebaissé en juin, mais la Fed regarde le PCE, elle regarde le trim mean et le PCE core. C'est ça le vrai test. Il faut cette semaine, il est impératif que le PCE core recule, que la Fed puisse avoir à sa disposition quelque chose qui montre que justement la hausse du prix du pétrole n'a pas contaminé l'inflation profonde. Ça, c'est le chiffre majeur de la semaine. Et en plus, en cette semaine, que je peux qualifier, oui, allez, j'utilise l'adjectif interdit. Vous savez, vous le connaissez, cet adjectif qui m'est favori, l'adjectif décisif. Bon, en tout cas, semaine très importante. Pourquoi ? Parce que la Fed le 29 juillet, le 30 juillet, l'inflation US-PCE, et cette semaine, résultat trimestriel du deuxième trimestre du T2, des GAFAM, enfin en tout cas 4 à 5 GAFAM publient cette semaine, même si on sait finalement ce sont les semi-conducteurs qui nous intéressent, mais justement je vous refais un énorme point valo, notamment sur les semi-conducteurs, sur la tech US, et je vous fais aussi donc un gros point technique sur le S&P 500, sur les taux. Aussi, ma toute nouvelle cartographie à jour sur le prix du pétrole, car oui, ça impacte l'inflation nominale, pas encore l'inflation sous-jacente, mais c'est majeur de savoir exactement. Je vais vous montrer ma cartographie et vous allez aller voir ensuite en temps réel le prix du pétrole pour bien comprendre où en est la situation. Les taux, le marché action, la tech, gros point technique et valorisation. Alors, chers amis, je vous le dis, S&P 500, question, est-il temps de sérieusement sécuriser ses gains de moyen long terme? Réserve fédérale, l'impossible, pas statu quo, que le marché espère être maintenu au moins jusqu'aux élections de mi-mandat, fameuse mi-terme, ce début du mois de novembre prochain. Bienvenue à les 80 kilos de muscles, c'est parti, on attaque. Les amis, nous commençons donc par le programme, je viens de vous le donner à l'oral dans cette introduction. 5 grandes parties cette dernière semaine du mois de juillet, très riche en fondamentaux boursiers, avec bien sûr toujours la géopolitique, mais une décision de politique monétaire de la Fed, 29 juillet, l'inflation US-PCE, jeudi 30 juillet, et les trimestriels des stars de la tech US, quelque part entre le 29 et le 31 juillet, et ça continue encore la semaine prochaine. Le marché conserve l'espoir du maintien d'un statu quo de la Fed ce mois de juillet, peut-être en septembre, même si, bon, ça commence à être chaud. Et bien sûr, le marché conserve l'espoir que le marché action évite une séquence de correction violente. tour d'horizon technique et fondamental, alors qu'il est probablement temps de commencer à sérieusement penser à sécuriser ses gains de moyen long terme. En tout cas, il semble que cela soit l'enseignement de six graphiques que j'ai sélectionnés pour vous. D'où viennent-ils? C'est toujours important de citer ses sources. Ils viennent de la très respectable, c'est un avis personnel, et de la très respectée, c'est objectif. C'est comme ça qu'elle est traitée par la haute finance, par les asset managers. La fameuse étude mensuelle de la Bank of America, la BOFA FMS, pour Fund Manager Survey, l'étude du positionnement mois après mois des gérants institutionnels. Et souvenez-vous, il y a 3 semaines, je vous ai fait une vidéo en vous expliquant que nous n'avions pas encore atteint l'optimisme exacerbé, que nous étions dans une phase d'euphorie, mais pas encore proche des métriques qui doivent alerter sur le fait qu'un top majeur peut être proche ou en vue. Et là, je ne parle pas de niveau technique, je parle de positionnement institutionnel. Laissez-moi donc vous parler de six graphiques qui invitent maintenant à la prudence, et ce, quelle que soit en réalité l'actualité géopolitique, et même, je dirais aussi, quels que soient les fondamentaux, parce que parfois, un positionnement excessif peut créer un mouvement de marché, un mouvement de contre-pied, parce que justement, le réservoir est rempli. Rappelez-vous cette image, cette analogie que j'ai de vous présenter, la théorie des réservoirs, lorsque le, imaginez deux bonbonnes, imaginez deux barils de pétrole, hein, voilà, c'est dans l'actualité, imaginez un premier baril d'acheteurs et un second baril de vendeurs. Concentrez-vous sur le réservoir, le baril des acheteurs. Lorsque le baril des acheteurs se remplit petit à petit, arrive un moment où le baril des acheteurs arrive à ras-bord. Et que se passe-t-il lorsque l'on continue de remplir un baril qui arrive à ras-bord? Il ne peut que se vider. Et donc, d'un point de vue du positionnement institutionnel, sommes-nous arrivés ou proches d'être arrivés en haut de ce baril? Premier graphique, il est majeur. Il s'agit de la part du cash chez les gérants. C'est assez logique, concrètement, pour résumer la situation au sein des asset managers. Vous avez, alors, les asset managers lèvent des fonds. C'est pas pour les garder dans la poche. Un asset manager lève des fonds. Ça lui crée donc une poche de liquidité. À partir de cette poche de liquidité, en gros, soit il va vers les actions ou les obligations. C'est vraiment un schéma simplifié. Cette part du cash, eh bien, en fait, elle évolue à travers le temps. Et on constate qu'il y a des bornes. Concrètement, on voit qu'elle évolue entre 3, 3,5 et 7, 8%. En général, quand la part du cash est à 7-8%, le marché est proche d'un point bas important parce qu'il y a beaucoup de cash qui est disponible pour se déverser sur les actions et les obligations. Mais quand la part du cash arrive tout en bas de son seuil, 3-4%, eh bien, ça ne peut pas baisser davantage, c'est la zone basse et il n'y a plus de cash pour venir se déverser sur les actions et les obligations. Et donc, alerte. Les données datent de juillet 2026, la part du cash chez les gérants est retombée à 3,6% du portefeuille, des portefeuilles en moyenne, c'était tombé à 3,4% déjà au printemps dernier. Donc c'est une zone basse, attention, ça ne veut pas dire que le top est là. Ça peut prendre parfois des mois, d'accord? Mais c'est quand même quelque chose d'important à noter, et arrivera un moment où en fait, si vous voulez, même si vous pouvez avoir de bons fondamentaux, s'il n'y a plus de cash à allouer, on parle d'allocation d'actifs vers des actions et des obligations, marché ne peut pas monter davantage. Souvenez-vous, ma théorie des réservoirs. Un réservoir rempli à ras-bord, je l'arrose, il ne peut que se vider. Voilà. Je trouve que cette image est assez... Donc voilà, donc ça, c'est un chiffre quand même qui n'est pas anodin, qu'il faut avoir en tête. Ensuite, ça c'est intéressant, surtout en cette semaine de réserve fédérale des États-Unis, alors que la géopolitique, le pétrole, etc. etc. Et en fait, la haute finance ne croit pas en une hausse de taux. Alors, pas pour cette semaine. Alors, s'il y a une hausse de taux cette semaine, c'est vraiment que là, c'est chaud. La haute finance a en elle ce sourd espoir. D'où vient-il? Ce sourd espoir vient du fait que, en novembre, ce sont les élections de mi-mandat. Et que d'un point de vue politique, il serait très malvenu de la part de la réserve fédérale de Kevin Warsh, qui, vous le savez, n'est pas seul à décider. Vous connaissez le principe du fonctionnement du FOMC, 12 membres votants, etc., etc., blabla. Je vous ai déjà tout expliqué mille fois, mais on aura l'occasion d'en reparler. Il n'est pas seul à voter, il n'a pas droit de veto. En cas d'égalité, il a le dessus. Bon, ça, ce sont les règles principales. Bon. Mais la haute finance se plaît à espérer qu'il n'y ait pas de mouvement de la Fed avant les élections de mi-mandat. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, alors que d'ici les élections de mi-mandat, il reste la décision de politique monétaire de ce mois de juillet, la 29 juillet, et celle du mois de septembre. Troisième graphique important, rappelez-vous, les risques que liste la haute finance en lien donc avec un potentiel risque systémique, et donc plus que jamais, eh bien, c'est à nouveau les dépenses d'investissement des hyperscalers AI, tous ces géants, Amazon, Google, etc., qui investissent dans des milliers de data centers à travers le monde, bon, et toujours le fait que bah, tout cet argent investi, les capex, les dépenses d'investissement, eh bien, que cet argent ne soit pas derrière rentabilisé, bon, tout le monde a ça en tête. Bon, le crédit privé recule un peu. Je vous ai fait déjà une vidéo sur le crédit privé. Et c'est intéressant vraiment de voir que finalement, les autres risques sont très marginalement cités. Quatrième graphique qui me semble très important, les fameux trades qui sont considérés comme the most crowded trade. C'est-à-dire qu'en fait, quand bien même vous allez avoir de bons fondamentaux, même si vous avez des perspectives de bénéfices encore ultra solides, etc., arrive un moment où ce fameux réservoir... Gardez bien en tête cette analogie que je vous propose, la théorie des réservoirs. Et c'est assez logique de comprendre que lorsqu'un réservoir est rempli, quand bien même la qualité du liquide à l'intérieur est exceptionnelle, eh bien, si le réservoir est rempli, il ne peut que se vider. Donc... ça fait plusieurs mois consécutifs que le long global semi-conducteur est vraiment considéré comme le trade le plus crowded. C'est même pas les Magnificent Seven hein, qui sont pas forcément tous des stars des semi-conducteurs. En fait, c'est surtout Nvidia parmi les Mag 7 qui est dans les semi en direct. Donc finalement, les GAFAM qui pèsent dans le S&P 500, eux, techniquement parlant, ne sont pas du tout en surachat massif. Et c'est pourquoi cette semaine, vous avez la publication des GAFAM. Vous avez 4 GAFAM qui publient cette semaine. Et si les résultats sont bons, bah, eux, ils ne sont pas en bulle. Hein, donc ça peut tout à fait relancer encore le S&P 500. Donc il faut bien aussi avoir ça en tête. Ce ne sont pas les GAFAM qui sont en crowded trade. Ce sont les semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs ne pèsent pas non plus. Ça pèse, bien sûr, mais ce n'est pas que tout le secteur de la tech. Donc, effectivement, alors, dans les principaux risques qui sont cités, comme d'habitude, bien sûr, toujours pareil, la bulle de l'IA et la seconde vague d'inflation. La seconde vague d'inflation, c'est bien sûr la géopolitique, le prix du pétrole, les détroits, bon, tout le monde a pigé. Et encore, je vous ai fait une vidéo spéciale mercredi dernier, enfin spéciale Infast Interact, vous expliquant que le pétrole a surtout un impact pour le moment sur l'inflation nominale, qu'il n'impacte pas l'inflation profonde, qui est mise en avant par l'inflation sous-jacente, core CPI, core PCE, le three mean PCE, mais que cela peut finir par arriver. C'est ça que regarde la Fed. C'est pourquoi probablement, très probablement cette semaine, la Fed va conserver donc le statu quo. Mais ce graphique-là me semblait intéressant. Et enfin, donc un sixième graphique intéressant, souvenez-vous, je vous ai expliqué que les phases, en fait, les tops majeurs arrivent lorsqu'on arrive en zone d'euphorie. Et donc, nous revoilà à nouveau en zone extrême bullish. Il s'agit du positionnement institutionnel. Bon, nous ne sommes pas à 10, mais nous sommes dans cette zone extrêmement haute. Et au contraire, regardez, les points bas de marché, c'est lorsqu'on est en phase de pessimisme majeur. Et ce fut notamment les points bas donc de mars 2020 et d'octobre 2022. Là, nous sommes à l'opposé. Donc, effectivement, bon, il y a vraiment des choses qui montrent que un marché peut rester en euphorie, peut rester en surachat beaucoup plus longtemps que vous avez la capacité à rester solvable. C'est-à-dire que si vous êtes agressivement short toutes les semaines, si toutes les semaines vous prenez des shorts à effet de levier en vous disant c'est euphorique, c'est n'importe quoi, ça, et viendra le moment où effectivement ça va commencer à corriger, sauf que bah, vous n'aurez plus de capitaux. Donc, c'est un cadre qui appelle à la prudence, mais il faut un signal technique pour vraiment valide. Il faut des cassures de support moyen long terme. Donc voilà, en tout cas, ce sont ces six premiers graphiques qui invitent à la prudence. La Fed du mercredi 29 juillet, statu quo confirmé. Alors, sauf surprise, sauf vraiment surprise de dernière minute, j'y crois pas, il faudrait, la Fed ce 29 juillet devrait maintenir le statu quo. La vraie question se pose pour la réunion du mois de septembre. Vous avez vu que les institutionnels ne croient pas à une hausse du mois de septembre parce que c'est avant les élections de mi-mandat et que là, il y aurait vraiment un énorme conflit avec la Maison-Blanche. Maintenant, si le statu quo doit être maintenu en septembre, il va falloir le justifier. Et pour le justifier, la Fed de Kevin Warsh a besoin... Alors, elle peut s'appuyer sur les métriques de l'inflation profonde, mais elle a surtout besoin aussi d'un apaisement du prix du pétrole, d'un apaisement du prix du galon pour le consommateur américain. Le galon qui est égal à 3,78 litres, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, alors, pour ce 29 juillet, vous n'aurez pas la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed. Vous allez avoir un communiqué de presse, comme d'habitude. Alors, il est intéressant parce que, à la différence de Jérôme Powell, Kevin Warsh rédige lui-même ses communiqués de presse et c'est propre. Il écrit à la mano. Ça change des anciens communiqués de presse qui sont collés-collés. Et il y aura une conférence de presse. Alors, au stade actuel, selon l'outil CME Fed Watch Tool, il y a quand même une probabilité dominante que la Fed maintienne le statu quo pour sa décision de politique monétaire du 29 juillet. Pour le mois de septembre, pour l'instant, c'est une hausse de taux qui a le dessus. Mais tout ça peut aller très vite en fonction de la situation géopolitique, du prix du pétrole, de l'évolution de l'inflation sous-jacente. Et c'est pourquoi cette semaine, j'insiste, plus peut-être encore plus important que cette fête du 29 juillet, c'est le chiffre de l'inflation US PCE du jeudi 30 juillet qui va vraiment avoir un impact fort sur le marché, qui va avoir un impact fort sur le marché. Donc justement, inflation PCE du jeudi 30 juillet, un véritable reality check pour la Fed. Pourquoi est-ce un reality check pour la Fed? Parce que vous avez eu, et cette dernière semaine, la mise à jour du CPI et du PPI. Je vous rappelle que vous avez trois grandes mesures de l'inflation. Le PCE, le CPI, le PPI. PPI, prix à la production, prix sorti d'usine, qui a quand même été négatif en mensuel en juin. L'inflation CPI core qui a redroppé à 2,6. Donc, il y a eu récemment, et puis des mesures d'inflation temps réel, et même le trim mean PCE, l'inflation vraiment profonde qui exclut les éléments volatiles, notamment l'énergie, montre que pour l'instant, la hausse du prix du pétrole, mais ça, je vous renvoie vers le Fast and Forex de la semaine dernière, je ne refais pas la même chose, ne s'est pas transmis à l'économie dans sa profondeur. C'est sur ça que, pour le moment, la Fed de Kevin Warsh peut s'appuyer. Donc, effectivement, vous avez en juin une chute, et là, et en fait, c'est majeur, regardez bien. Vous avez eu en juin une chute de l'inflation CPI core à 2,6. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est que cette semaine, le PCE core confirme. Le CPI core a droppé à 2,6. Le CPI a une façon différente d'être calculé que le PCE. La Fed regarde surtout le PCE parce que ça s'appuie sur des données comptables, du solide, du concret, du pas de bullshit. Dans le CPI, il y a beaucoup de parties sondages. Donc cette semaine, ce que l'on veut voir, c'est un alignement du PCE core sur le CPI core. En clair, en juin, le CPI core a baissé. On veut, nous voulons, la haute finance américaine veut voir, tous veulent voir, la baisse aussi PCE core cette semaine. Et est-ce garanti? Non, puisque la pente quand même depuis le début de l'année du PCE core n'est pas très bonne. Alors certes, nous ne sommes pas en vague inflationniste comme 2021-2022, mais la pente n'est pas bonne. Il faut, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas cette semaine, le consensus pense qu'on va passer de 3,4 à 3,2. Donc, OK. Même l'algorithme de la Fed de Cleveland nous dit on passe de 3,4 à 3,3. 3,4 à 3,3, c'est pas non plus la folie furieuse. Mais c'est pour avoir encore l'espoir d'un statu quo de rentrée, il faut vraiment voir le PCE core prendre la direction du sud. En fait, Kevin Warsh, lui, il est de bonne volonté, il ne veut pas monter les taux. Mais s'il n'a pas le choix, pour ne pas monter les taux, il faut qu'il puisse s'appuyer sur quelque chose. Alors, il peut notamment s'appuyer effectivement sur le trim mean PCE, qui est vraiment, ça c'est la version du PCE, qui est vraiment qui représente l'inflation structurelle US. C'est encore plus puissant que le PCE core. Retenez bien, le trim mean PCE est encore plus puissant. Lui, on voit qu'il est à peu près flat. Il faut absolument pas. Donc, et tout ça, c'est pourquoi il faut l'apaisement géopolitique, certes, le prix du pétrole, certes, mais vraiment cette inflation profonde, c'est ce qui compte. Et alors, les derniers rapports sur l'emploi étaient plutôt décroissants. Le marché du travail américain a un peu plus faibli que prévu. Ça va vraiment dans le sens, si vous voulez, d'un statu quo pour ce 29 juillet. Donc la Fed, voilà, le 30 juillet, la mise à jour du fameux PCE US, ce sera ce qu'il y a de plus important. Et donc ici, je vous ai fait la synthèse, donc CPI, PCE et Three Mean PCE. Donc là, ce sont en version nominale. Donc c'est la version nominale. Vous voyez, donc le PCE est quand même moins impacté que le pétrole, par le pétrole. Dans le three mean, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas les éléments volatiles, il n'y a pas le pétrole. C'est vraiment l'inflation profonde, mais il y a quand même une sensibilité indirecte. C'est pour ça que la Fed regarde surtout celui-là, mais elle regarde surtout le PCE core. Donc voilà, ça va être vraiment important cette semaine du 30 juillet. Tech US, résultat du T2, un sans faute obligatoire. Alors, vous savez, ce qui est en bulle, mais parce que ça fait du pognon, c'est les semi-conducteurs. Cette semaine, vous avez la publication des GAFAM, beaucoup de GAFAM. Alors, bien sûr, ils sont en lien avec l'IA, mais ce sont les autres compartiments du secteur de la tech. Et vous allez voir qu'en fait, ça reste complètement sous contrôle en termes de valorisation. Donc, cette semaine, vous avez donc les résultats notamment de Microsoft, de Meta. Ça, ce sera le mercredi 29 juillet. Donc là, je suis sur le site TradingView et sur la rubrique donc des bénéfices du site TradingView. Ensuite, vous allez avoir Apple et Amazon, Mastercard, etc. le jeudi 30 juillet. Donc, vous avez beaucoup de résultats qui vont être publiés. Alors, où en est-on d'un point de vue déjà de la valorisation? Vous avez ici la valorisation du secteur tech selon le PE chiller en bleu et le PE régulier en vert. En termes de PE chiller, on a récemment fait un nouveau record, mais on s'est replié. On est quand même à 66. En termes de PE régulier, on est loin du record. Donc, en termes de PE régulier, c'est assez encore sous contrôle. En termes d'anticipation de profit, alors, les résultats du second trimestre ont déjà commencé à tomber, mais pour le plus gros de la tech, c'est cette semaine et la semaine prochaine. Le marché anticipe toujours, je vous rappelle, une croissance des profits du secteur de la tech de plus de 60%. Et cette anticipation de croissance pour les résultats du T2 et enfin Q2 quarter en anglais, ça n'est dépassé que par le secteur de l'énergie. Il est normal, les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole, premier exportateur mondial de pétrole. Bon, voilà, ils écrasent tout le monde, les States, en termes d'énergie. La Chine dépasse les States en termes d'électricité, mais en termes d'énergie fossile. Donc, ça c'est notamment le pétrole. Donc là, on voit qu'il y a des anticipations de profits qui sont encore massives. Il y a une valorisation alors qui est encore sous contrôle. Je vous montre ici la toute dernière mise à jour du PE Forward. Donc la valorisation du S&P 500 selon le PE Forward. Eh bien, nous sommes simplement à la moyenne des 5 dernières années. Et alors que le S&P 500 est proche de son record, le PE Forward, lui, n'est qu'à 20. Le record est à 23,5. Donc, c'est pareil. Imaginez quelle pourrait être la valeur du S&P 500 si simplement le PE Forward revient à son record historique. Mais voilà, comme son nom l'indique, PE Forward, ça repose sur le forward. Donc, ce sont les bénéfices projetés. Et donc, cette semaine, c'est une première semaine de reality check avec le début des résultats trimestriels des GAFAM pour le second trimestre. Et il y a un autre graphique qui est là que je vais vous montrer qui est majeur. Il est sur TradingView. Voilà, quand je vous dis que la question de cette vidéo, c'était quand même, est-il temps de penser à sécuriser sérieusement ces gains de moyen long terme? Je vais vous montrer peut-être un graphique. D'ailleurs, il va falloir suivre en permanence. Oui, le PE Forward, ça compte, mais le PE Forward a ce problème qu'on raisonne sur les bénéfices futurs. Le PE Chiller, CAP Ratio, c'est la valeur du marché par rapport aux bénéfices passés. Ce n'est pas du bullshit, c'est comptable. Et c'est la moyenne des 10 dernières années, c'est une moyenne mobile. Et c'est retraité de l'inflation. Et donc, c'est magnifique. Regardez comme c'est magnifique. Là, vous avez le PE Chiller du S&P 500. Et là, vous avez la version normalisée, dite Z-score, du PE Chiller. Eh bien, nous sommes actuellement sur le PEL Chiller à 41. Regardez, le record de 1999 est à 44. Et moi, j'ai toujours eu en tête, je me suis toujours dit que le vrai top de marché final, le vrai top de marché final pour le S&P 500 serait au moment, pardon, où on rejoindrait ce record de 1999. Et que tant qu'on ne l'a pas rejoint, en fait, toutes les corrections du S&P 500 s'inscrivent dans un cadre court terme, parfois quelques séances, parfois quelques semaines, mais qu'après cela, et une fois l'élément de pression court terme maîtrisé, la tendance de fond reprend, et ce, jusqu'à ce qu'on rejoigne ce record. Regardez-le bien comme il est beau, ici en version Shiller classique, ici en version normalisée, formule Z-score. Eh bien, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Oh, il n'est pas très élevé. Faites le delta entre 44 et 41, hein, c'est 6 à 7%. Donc voilà. Alors voilà tout ça et voilà où nous sommes donc en termes de valorisation. Alors que justement donc eh bien cette semaine c'est une publication des résultats des GAFAM. Je voulais vous montrer les fameux semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, tout le monde s'emballe parce que ça a eu une dynamique verticale, ok, c'est un fait, dynamique verticale, et que le trade est crowded. Je vous l'ai montré, tout le monde est long. Donc ça, c'est un risque de positionnement. Mais en termes de valo, en fait, regardez Micron. Je vous en parlais la semaine dernière de Micron. Micron qui, dès que Micron corrige de quelques séances, quelques semaines, ça refait des séances à plus 10, plus 15. Je vous en ai parlé dans ma sélection de 7 valeurs lundi dernier. Micron, là, c'est les derniers, toutes dernières données à jour. Le PE forward est de 5,80. 5,80. Un PE forward à 5,80. Déjà, c'est quasiment gratuit. C'est vraiment pas cher dans tous les secteurs. Mais un PE forward à 5,80 dans le secteur des semi-conducteurs en lien avec l'IA, ça veut dire que c'est une action quasiment gratuite. Alors que le titre a gagné 1000% depuis le point bas d'avril 2025. Rappelez-vous, à l'époque, la guerre commerciale. Quand je vois ça, moi, je vois les signaux d'alerte, je vois le positionnement, je vois l'euphorie, je vois le crédit, je vois la part du cash, etc. Mais quand je vois ça, ça me fait dire que, déjà, les semaines où les résultats trimestriels sont publiés sont majeurs, mais ça me fait dire toujours que les corrections ne dépasseront pas le cadre court-moyen terme, c'est-à-dire quelques séances à quelques semaines, avant d'être en capacité, donc, de se relancer dans le sens de la tendance haussière de fond. Là, je vous montre quelques éléments de valorisation du secteur des logiciels. Et notamment, bah, je vous ai dit que vous aviez cette semaine et ces deux prochaines semaines, Microsoft, Meta et Alphabet qui publient et qui ont des PE forward tout à fait sous contrôle, en fait. Ils ne sont pas non plus en zone. Mais de toute façon, ces actions-là, les stars, les Magnificent Seven ne sont pas en crowded trade. Hein. Vous avez vu que le trade qui est crowded, ce sont les semi-conducteurs. Ce n'est qu'une industrie de la tech. Mais les Magnificent Seven ne font déjà, à part, il y a Nvidia qui est à fond dans les semis, mais les autres ont plein d'autres activités. Et ces activités-là ne sont pas du tout crowded. Et c'est même pas trop cher. Donc en fait, ces actions-là ont toujours la capacité de se relancer et d'entretenir la hausse du S&P 500. Peut-être jusqu'à ce que mon PE chiller atteigne ce niveau des 44 que je vous ai montré juste avant. Et donc, ça veut dire que les corrections court-moyen terme, qui sont par exemple liées à la géopolitique, ne sont pas faites pour durer. Et nous terminons donc cette nouvelle édition du Top Gun par un tour d'horizon technique sur le 2 ans américain, le S&P 500 secteur de la tech. Bon, je vous ai mis ici quelques valeurs, est-ce qu'on va toutes les regarder? Alors, c'est bien sûr le prix du pétrole, je vous ai fait une cartographie déjà la semaine dernière, je vais vous remontrer ça, mais dans les éléments vraiment importants, à noter, déjà, le S&P 500, le seuil moyen long terme, c'est 7050-7100, en mensuel, en hebdomadaire, 7050-7100. Ça, c'est le seuil. Le seuil court terme reste le niveau des 7450. En gros, le marché se maintient. Alors, il y a toujours un décalage entre le moment où j'enregistre et je publie. Mais peu importe, en fait. Les niveaux sont là. Retenez la chose suivante. Au-dessus de 7440, c'est bullish. En cas de cassure des 7440, Kijun et Kumo, il y aura un retracement à 7230. OK ? Il y aura un retracement à 7230. Retracement court terme, mais la zone comprise entre 7050 et 7200 est une zone d'intérêt à l'achat dans le sens de la tendance haussière de fond. Si vous prenez le secteur de la tech, lui, il est bullish en tendance au-dessus du support des 7000 points. RAS, bullish en tendance de fond, au-dessus des 7000 points et de la moyenne mobile à 200 jours. Si vous prenez le SOX, après cette hausse verticale, eh bien, je vous remonte ce graphique mensuel que je vous ai déjà présenté une fois. Toutes les corrections court et moyen terme s'achètent tant que vous n'avez pas ce signal sur le RSI mensuel du SOX. Un signal, je vais vous montrer en logarithmique pour que vous voyez bien que ça correspondait, ça anticipait bien les phases de correction de plusieurs mois du SOX, l'indice des semi-conducteurs, la cassure du niveau des 70 sur le RSI mensuel, ici donc en 2000, ici en 2015, 2018, 2022, et à chaque fois, cette cassure par le bas du niveau des 70 sur le RSI mensuel anticipait plusieurs mois de correction, et au stade actuel, ce signal n'est pas donné. Alors, nous verrons bien à la clôture mensuelle de la fin de ce mois de juillet. Je vous montre, il y a beaucoup d'actions qui sont intéressantes, intéressantes à suivre. Et par exemple, Micron, le titre a fait 1939% de hausse depuis avril 2025. Et il a un PE forward de 5,80. C'est exceptionnel. Si vous voulez qu'après une telle hausse, on n'ait pas un PE forward à 50 ou 60. Il est à 5. Moi, quand je vois ça, je n'ai pas d'inquiétude. Dès que ça corrige de 3-4 semaines, je paye. Ce qui serait du pain béni, c'est de revenir sur la moyenne mobile à 200 jours. Mais dès que ça corrige de 3-4 semaines, d'ailleurs, ça fait régulièrement ensuite des séances de rebond. Mais moi, j'ai pas d'inquiétude quand je vois donc ce forward qui reste sur des niveaux extrêmement bas. Il faut aussi surveiller, bien sûr, le Kospi. C'est l'Asie, c'est la tech, c'est Hormuz, c'est la Corée du Sud. C'est pareil, si on revient tester la moyenne mobile à 200 jours sur le Kospi, j'estime que ce sera aussi donc une opportunité. Le 2 ans américain reste enfin vraiment ce qui permet de mesurer encore plus la pression sur la Fed. Il est vrai que tant que le 2 ans américain se maintient au-dessus du taux de la Fed, c'est que le marché dit à la Fed, vous devez monter les taux pour conserver votre crédibilité. Et plus on s'éloigne des 3,75, plus la Fed est sous pression. Et là, le 2 ans est à 4,26. Alors, chers amis, eh bien, lorsque vous regardez la vidéo de ce Top Gun, allez tout de suite voir sur TradingView où se situe le US02Y. Allez voir le graphique du US02Y. Sommes-nous encore en train de monter ou en train de reprendre la direction vers les 3,75? Et vous aurez déjà un début de réponse importante sur le fait de savoir est-ce que la Fed sera en mesure ou pas de maintenir le statu quo en septembre ou sera-t-elle obligée de passer une hausse de taux? Mais si elle le fait quelques semaines avant les élections de mi-mandat, ça va chauffer pour Trump, pour les élections de mi-mandat. Bon, donc tout ça va être hyper passionnant et potentiellement explosif ou pas à la rentrée. Alors, d'après vous, est-il temps de sérieusement sécuriser ses gains ou au contraire, les corrections court terme sont-elles encore des opportunités pour se placer dans la tendance haussière de fond? Hâte de lire votre avis. Merci.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.